réplique « Peut-on encore aimer le football ?» avec Robert Redeker et Grégory Schneider. Mon père, quand j'étais enfant, attendait avec impatience de me voir grandir pour que je puisse l'accompagner au Parc des Princes voir les matchs du Racing. À l'âge de 8 ans, j'ai donc découvert l'ambiance survoltée, mais encore civilisée du parc. Les supporters du Racing ne rechignaient pas à applaudir les belles actions des équipes adverses et notamment celle du grand rival, le Stade de Reims. Je garde un souvenir ému de ces communions populaires, et même si je ne vais plus guère au Parc des Princes, je suis toujours le championnat de France, ainsi que les grandes compétitions internationales, et j'aime regarder avec quelques amis les matchs importants à la télévision. Bref, je ne méprise pas le spectacle sportif, et à ceux qui fustige cette aliénation, je réponds avec Hannah Arendt que c'est pur snobisme ou hypocrisie de nier pour nous le pouvoir de divertissement et d'amusement des choses exactement les mêmes qui font le divertissement et les loisirs de nos compagnons humains. Si je me pose aujourd'hui la question « Peut-on encore aimer le football ?», c'est parce que ce divertissement a changé d'échelle et qu'en changeant d'échelle, il a peut-être changé de nature. En découvrant le montant mirobolant, faramineux, stratosphérique du transfert du prodige brésilien Neymar au Paris Saint-Germain, j'ai été, comme beaucoup, frappé de stupeur. Et quand j'ai appris que la Tour Eiffel avait été illuminée pour fêter l'événement, je me suis dit qu'il fallait s'y arrêter. Le football est entré dans une nouvelle époque et cette époque du football nous dit quelque chose de l'esprit de notre temps. Quoi exactement? C'est ce que je demanderai au philosophe Robert Redeker et au journaliste sportif Grégory Schneider, dont je suis un lecteur assidu des chroniques et des enquêtes dans Libération. À vous l'engagement, Robert Redeker. Vous avez publié au lendemain du transfert de Neymar un entretien dans Le Figaro qui était un véritable réquisitoire. Pouvez-vous en résumer l'argument, Robert Redeker?
Je ne sais pas si je peux en résumer l'argument, si j'en suis capable. D'autre part, je ne méprise pas non plus, je suis comme vous, je ne méprise pas non plus ce que nous appellerons le jeu et qu'il faut peut-être différencier de ce que nous appellerons le football au sens d'un produit industriel, diffusé par ce que Renaud Camus appellerait plus ou moins une industrie de l'hébétude. Enfin, il y a quelque chose. Mais cela, ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu. Ce produit industriel est par contre très très articulé avec l'argent, avec les joueurs devenus des comme des actions dont on se sert en bourse, hein, voilà, des actions qui montent, qui descendent, voilà, spéculatives, ce qui contraint les joueurs d'ailleurs à gérer leur image, puisque leur valeur boursière, le mercato c'est la bourse, puisque leur valeur boursière dépend de cette image, parfois plus que du jeu lui-même, voilà. Donc vous voulez dire que
oui, mais
ne méprise pas du
tout. Dans... Une des choses qui m'a frappé dans l'entretien que vous avez eu avec Vincent Trémollet-Villers, c'est que vous parlez, Robert Redeker, d'argent spectacle.
Oui.
Cette formule, je l'ai trouvée assez extraordinaire, parce que le sport spectacle, la société du spectacle, la civilisation du spectacle, tout le monde sait ce que c'est. Mais en effet, la somme, 222 millions d'euros, dont on rappelle que c'était la clause libératoire fixée, de manière qui se voulait dissuasive par Barcelone, cette somme, elle a occupé tous les esprits. Et donc, elle est devenue elle-même partie intégrante du spectacle, Robert Redeker.
Il s'est passé quelque chose en 2008. Hein, il y a des racines un peu plus lointaines dans ce que nous sommes en train d'évoquer. Voilà. La crise de 2008 est très différente de celle de 1929 sur ce point de vue-là. L'argent est devenu une star. L'argent est devenu à la fois un spectacle et une star, alors que jusque-là, l'argent soutenait le spectacle, soutenait les stars. Et il me semble que ce qui est arrivé avec Neymar, puis quelques semaines après avec Mbappé, c'est encore beaucoup plus frappant,
oui,
je trouve.
Puisque quelques semaines après, il a été lui-même transféré au Paris Saint-Germain pour, au total, 180 millions d'euros que le PSG paiera sans doute l'année prochaine, de manière à respecter du moins l'apparence, ce qu'on appelle dans les instances le fair-play financier.
Alors, ce qui est arrivé, c'est véritablement le changement de dimension. La véritable star, désormais, c'est l'argent.
Alors, quelle a été votre réaction?
Non, mais c'est par rapport à ce qui est dit, il y avait un espace qui était un espace de compétition, qui court à peu près de début août à la fin juin. Et ils ont réussi à définir un autre espace, qui est un espace qui appartient au marché des transferts. Et en fait, c'est devenu, c'est ça qui est fascinant, et c'est ça qu'on a vu cet été, ce marché des transferts est devenu une compétition en soi, déconnectée de l'autre. Où, effectivement, la star, c'est l'argent, ce sont les montants. Les montants sont des personnages, ils sont incarnés à travers Neymar, ils sont incarnés à travers Mbappé.
Sur l'équipe TV, il y avait une émission qui était consacrée au mercato.
Au mercato, comme il y a des émissions qui sont consacrées le reste de l'année aux compétitions. Et alors, c'est assez intéressant, ils ont réussi à occuper médiatiquement le terrain sans même faire rouler un ballon. C'est tout à fait fascinant. Ils ont réussi ce truc-là. Et alors, ce mercato, en fait, il y a une espèce de séquence où on parle d'argent, où on parle, et à la fin, on a les gagnants et les perdants. Comme si c'était une compétition sportive, comme si vous aviez des finales. Alors là, le Barça a gagné, a perdu, le PSG a gagné. Et vous avez une cérémonie de sortie de cette séquence, qui est la cérémonie de présentation du joueur quand il a signé. Alors là, c'était au Parc des Princes, puisque ça se passe, on le met dans un amphithéâtre. Donc on a la sortie de cette séquence, c'est quelque chose qui est tout à fait ritualisé, qui est la conférence de presse de présentation du joueur, qui est une pièce de théâtre où le joueur joue son rôle marketing. Mais c'est indiscutablement, ils ont réussi en fait à faire du football sans faire rouler un ballon. Avec des modes de consommation propres qui sont l'interprétation des signaux forts et des signaux faibles sur Internet. Est-ce qu'il a liké la photo? On est en plein dedans. Ils ont réussi, sans même parler de jeu ou sans même faire de jeu, ils ont réussi à occuper le terrain.
À la différence de Zidane en 98, en défilant sur les Champs-Élysées, sans avoir rien gagné, sans faire rouler un ballon.
C'est fascinant.
Sans avoir. Bien. Sur ce point, vous accordez. Mais je vous ai pas non plus invité pour rien à Grégory Schoner. Je vous lis, j'aime vos articles et j'ai été, si vous voulez, très intéressé par celui que vous avez consacré à cette affaire elle-même sous le titre « Provocateur marxiste » parce que là, quand même, vous critiquez la critique, si j'ose dire, parce que les gens avaient réagi, et vous disiez, je vais vous lire, « On nous explique depuis 3 jours que la clause libératoire de 222 millions d'euros payée par le PSG pour sortir le président Neymar du FC Barcelone est démesurée. Le montant d'un Airbus A380 au prix réel. Et alors, qu'est-ce que le PSG ferait d'un Airbus? Il s'est offert un avion de chasse exceptionnel. Neymar n'a exploité personne pour devenir ce qu'il est. Il n'a hérité de rien d'autre que d'un talent qu'il a développé. Vous dites que personne ne crie à l'obscénité quand la toile de Paul Cézanne, les joueurs de cartes, est vendue pour une somme approchante. Et vous ajoutez, l'attaquant brésilien est-il une œuvre d'art? La production footballistique de certains joueurs, gestuelle propre, interprétation d'une partition, s'en rapproche. Donc, d'une certaine manière, vous démarquez
tout à fait,
certain discours critique.
Bah, c'est-à-dire, on peut trouver qu'on est dans une société où les sommes générées par l'industrie du loisir sont délirantes. Mais l'industrie du loisir, c'est la peinture, c'est le spectacle, c'est le cachet de Tom Cruise sur un film, c'est Neymar. Moi, alors, est-ce que le foot est de l'art? C'est encore assez compliqué à. Je pense que faire le tour de cette question est quand même pas simple. Maintenant, on peut dire qu'il y a un geste, donc quelque part une signature. On peut dire qu'il est ritualisé. on peut dire qu'il y a un rapport à la mémoire. Mon collègue de Libération, Philippe Lançon, quand j'avais écrit cet édito, m'avait dit, effectivement, il y a quand même ce... En fait, c'est pas tant le geste, c'est pas tant les jours de carte de Cézanne qui compte, c'est le souvenir que vous en avez, c'est les conditions dans lesquelles vous avez vu, c'est l'écho que ça a eu en vous, et c'est à peu près applicable à un match de football ou à un geste d'un grand joueur mémorable. Donc, il y a quand même cette ambiguïté-là. Moi, je trouve, autant on peut dire, il est scandaleux ou pas normal que l'industrie du spectacle génère ses sommes par rapport à... Je suis tout à fait... Mais après, sortir le football et différencier le football par rapport aux autres arts me semble quand même pas aller de soi. Voilà.
Oui, je diffère de cette interprétation. Je crois qu'on peut définir l'art par trois éléments. Un certain rapport à la vérité, d'abord. Alors là, on trouverait Platon, Heidegger. Un certain rapport à la vérité qui passe par le mensonge, d'où la méfiance de Platon pour la poésie ou d'Augustin pour le théâtre. D'abord, un certain rapport à la mort. Ce qu'avait vu Malraux, l'art, c'est ceux qui résistent à la mort.
Et, à la mort, oui.
Voilà, à la mort. Et le troisième élément, c'est une distance, c'est-à-dire une représentation qui est une distance qui a quelque chose à voir avec une critique de la société. Alors, si l'on peut peut-être garder l'élément mémoire pour un match de football, je ne crois pas que, au contraire de critique de la société, dans une vedette de football, il y a surtout une adhésion complète aux valeurs dominantes. Cette distance n'y est pas. Et bon, le rapport à la vérité, c'est autre chose.
Oui, mais c'est important, voilà. Parce que voilà, l'art est quand même une modalité de connaissance, voilà. Une forme de découverte du monde et des sentiments.
Je préfère insister sur... Le football, c'est un jeu plutôt qu'un art. Ces raisons-là.
C'est très intéressant. Je trouve que la résistance à la société, quelque part, y est. Sur les autres critères, je ne sais pas. Mais notamment le fait de survivre à la mort. Alors on peut dire que la mort, c'est la défaite, vous jouez derrière, mais ça me semble un peu spécieux. Par contre, oui. La résistance à la aux représentations de la société, par exemple, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours frappé et attiré dans le football, c'est que le football, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un comme Franck Ribéry, qui a pas un langage particulièrement facile, eh bien, il s'invite à table, il est là, escalité, et ça devient monsieur important. Et je pense que seul le foot est capable de faire de quelqu'un comme lui quelqu'un d'important. Ce que je veux dire, c'est que dans son œcuménisme, le foot, stricto sensu, c'est quoi? C'est pas un ballon qui roule, c'est le plaisir partagé. Voilà. Dans le plaisir partagé, le moins important, c'est pas plaisir, c'est partagé. Le foot, quelque part, c'est tout le monde, et j'y ai toujours vu un îlot de résistance par rapport au monde dans lequel je vivais.
D'accord, voilà. C'est partagé, mais c'est en même temps tiré la couverture à soi. Chacun sait très bien que une équipe de foot, c'est à la fois une solidarité, mais beaucoup de rivalité à l'intérieur de cette solidarité, parce que le cœur du public n'ira pas vers 11 ou 13 joueurs, il ira vers un ou deux joueurs. Et donc il y a une compétition pour conquérir le
Alors, je dirais un mot là-dessus, puis j'en reviendrai sur la question de la différence éventuelle de l'art et du football. L'individualisme dont vous parlez tous deux a changé même la chorégraphie de ce sport. C'est-à-dire qu'à une époque, quand un joueur marquait un but, il allait immédiatement vers les autres pour l'embrassade rituelle. Mais tout de suite, tout de suite. Et là... Il s'isole d'abord, il fait sa grande glissade sur le terrain, il tend l'oreille pour avoir un peu plus d'applaudissements, et c'est dans un second temps seulement que les autres joueurs s'agglutinent, se jettent sur lui, etc., et qu'ont lieu les embrassades. Bon, ça c'est quand même un changement assez spectaculaire.
Un petit détail, ils ont même dû légiférer parce que sur cet instant de célébration de but que vous évoquez, les marques allaient s'inviter rapidement. En plus, ils ont dû interdiction d'enlever le maillot parce que qu'est-ce qu'il y a sous le maillot, il y a forcément rien. Donc ils ont dû effectivement un peu sanctuariser ce moment-là, mais qui est un pur moment d'individualisme effectivement.
Alors, mais quand même, d'où une critique que l'on peut formuler, c'est l'exaltation d'un type d'individu que nous ne connaissions pas jusqu'ici. Alors certains parlent d'un individu égotique hyper moderne, c'est quelque chose comme ça qui est exalté
Bien sûr.
Également.
Un hyper individu.
Un hyper individu. Voilà. Ce qui me conduit à nuancer beaucoup ce que vous dites sur le partage, mais qui m'intéresse, je crois qu'il est très vrai dans les équipes de football de troisième, de quatrième division, dans les équipes de village, etc., qui est encore très vrai dans le rugby. Mais le football est tellement en pointe.
Le rugby se transforme. La professionnalisation du rugby, du rugby a aussi beaucoup
Modifier les rapports entre les joueurs.
Nous pourrions faire une émission, je le regarde beaucoup.
Mais quand même, un mot encore sur cette question du rapport du sport, du football en l'occurrence, et de l'art ou de la culture. Je citais tout à l'heure Hannah Arendt, cette phrase était extraite de La crise de la culture, donc elle fait sa place au divertissement, en dénonçant le snobisme, le philistinisme cultivé, mais en même temps, elle distingue le divertissement de la sphère de la culture. Et quand la culture est envahie par le divertissement, elle dit que quelque chose de grave se passe. Et moi, je voudrais en revenir aussi à la célèbre distinction par Pascal des trois ordres. L'ordre de la chair, l'ordre des esprits et l'ordre de la charité. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. Bien, maintenant, il ne s'agit plus des rois, des riches et des capitaines. Il s'agit des sportifs et des champions, de ces hyper-individus. Parce que vous dites, Robert Redeker, et c'est une phrase très très importante et même bouleversante, un grand savant, un professeur au Collège de France est un miséreux comparé à un joueur de football. Pareille défaite du bon sens corrompt l'esprit public en dévalorisant les activités économiques et intellectuelles utiles à la dignité de l'humanité et en survalorisant les acteurs d'un simple divertissement. Parce que c'est quand même aussi de cela qu'il s'agit avec ces sommes fabuleuses, Robert.
L'envahissement de tout l'espace social et même de l'imaginaire de chacun d'entre nous par un divertissement dont on aurait aimé qu'il restât à sa place, si vous voulez. Mais d'un autre côté, je crois que divertissement, il faut aller beaucoup plus loin. Le football n'est pas un simple divertissement. Voilà. Chez Pascal, le divertissement, c'est ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Or, il me semble que le football ramène l'homme moderne à ce qu'il est, à ce qu'il doit être. Lui met le nez sur ce qu'il doit être, c'est-à-dire compétitif, dans la recherche de la performance, dans la recherche du résultat, dans la réussite, dans l'argent. Donc, il y a les deux aspects. Voilà. Il y a effectivement le divertissement pascalien, mais pas seulement le divertissement, c'est aussi ce qui nous ramène à l'essentiel, nous, modernes.
Alors, il y a trois choses distinctes, en fait. Il y a les joueurs, c'est-à-dire le jeu, la manière dont ils le vivent, y compris les joueurs d'élite. Vous avez ce qu'on en fait, ce que le système en fait, c'est-à-dire cette marchandisation dont vous parlez extrême. On a l'impression effectivement d'avoir sous le nez une parabole du néolibéralisme permanente. Et il y a la manière dont les gens le vivent, en fait. C'est-à-dire la manière dont vous et moi, on voit le jeu. Et je trouve que la manière, en tout cas, dont les joueurs le vivent est très éloignée de la façon dont on les vend. Par exemple, il y a quelques jours, ils ont envoyé Mbappé pour son transfert. Ils ont storytellisé au maximum. Ils l'ont envoyé à Bondy, comme si je ne sais pas du tout.
Dont
il vient, alors en disant voilà, c'est une sorte d'exemple, à faire une petite louche de méritocratie là-dessus, enfin en disant voilà, on peut y arriver. Mais je ne sais pas du tout, et honnêtement, j'ai énormément de doutes sur la manière dont Mbappé a vécu ce Barnum ou cette utilisation de son image. Alors, on le paie très cher pour pouvoir utiliser l'image, donc on en fait un peu ce qu'on veut. Mais après, vous savez, le joueur résiste. Le joueur est différent de ça. Quand il est arrivé, par exemple, il a dit moi, je suis le seul dans le vestiaire parisien, rien à voir gagné. gagner. Son référent, c'est le foot. Donc, quelque part, c'est le jeu. Donc, quelque part, c'est ce minimum minimorum qu'on connaît et qui, de toute éternité, définit le football. Je pense qu'il faut faire très attention de la... alors, évidemment, de ce qui est le cœur du foot, c'est-à-dire la manière dont les acteurs le vivent. Au fond, le foot, c'est le joueur. On pourrait se passer de tout le monde, hein, sauf du joueur. Et ce qu'on en fait, est-ce que la manière dont le système le digère, est-ce que le système a envie de nous en montrer? Il faut faire très attention.
En même temps, vous avez raison. Le foot, c'est le joueur. Et je dois dire que j'ai regardé la deuxième mi-temps de PSG Toulouse avec toutes les préventions qui étaient les miennes. Et j'ai trouvé que c'était un match magnifique, surtout que c'est quand les Parisiens étaient réduits à 10 qu'ils ont aggravé le score. Neymar a fait des merveilles. J'ai évidemment, le spectateur un peu supporter que je suis a été... très admiratif, même si je n'irai pas jusqu'à parler d'œuvre d'art.
Oui, mais je voulais parler de ça, et c'est-à-dire par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que la force du joueur, et in fine, ce qui est terrible, c'est son prix, dépend de sa capacité à oublier tout le reste quand il enfile un short.
Voilà.
C'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que quand Neymar, quand il manœuvrait pour quitter Barcelone, la terre entière le traitait de traître, parce que Barcelone avait le club le plus aimé, mais il était jamais aussi bon que sous le maillot du Barça pendant la tournée américaine qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la capacité d'abstraction du joueur qui fait sa valeur. Et cette capacité d'abstraction, au fond, est une résistance par rapport aux clés géopolitiques dont vous parlez, par rapport... Et c'est d'imaginer le type, il tire à corner, il se retrouve avec l'État qatari sur le dos, avec l'équilibre au Moyen-Orient. Et ben à un moment donné, la valeur du football et sa puissance, c'est que le type s'en fiche. Sinon, il sera en incapacité de faire ce qu'il fait.
Oui.
Et c'est ce que vous avez vu contre Toulouse.
Oui,
voilà,
mais j'ai vu aussi j'ai le transfert de Mbappé. J'ai lu un éditorial de Vincent Deluc dans l'équipe.
Oui.
L'équipe, quand même. L'équipe qui vit de tout ça. Qui en vit très bien. Vincent Deluc vacillait. Vacillait. Il se disait, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est la glorieuse incertitude du sport? Comment peut-on dire que le meilleur gagne maintenant? Que tout est fait pour que la victoire revienne presque inévitablement aux plus riches. Donc, se dit aussi, quelque chose se passe qui atteint le sport dans ses fondements.
Ce n'est pas le seul élément troublant dans l'affaire Mbappé. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs années que l'on voit les plus riches gagner au football et dans d'autres sports. La Ligue des Champions, c'est finalement les 4-5 clubs les plus riches qui ont fait un club fermé entre eux.
C'est un club fermé, la Ligue des Champions.
C'est quelque chose de fermé. Donc la glorieuse incertitude du sport peut exister à la Coupe du Monde de football, mais pas à la Ligue des Champions. Il y a un autre élément, c'est que Mbappé n'est pas encore Zidane, Platini, ni même Neymar ou Messi. Voilà. Et c'est une somme délirante qui est mise sur lui, alors que bon joueur en devenir, mais on ne sait pas, peut-être ça se passera très mal, bon joueur en devenir, c'est l'argent qui le starifie auparavant. Parce que l'affaire Martial, c'était déjà un peu ça. Et Martial n'a pas... complètement confirmé.
Oui, Martial a été transféré à Manchester.
À Manchester. Pour 50 plus 30 de bonus, voilà. il y a deux ans. Oui,
tout voilà, ça avait déjà surpris. Bon, Mbappé, c'est presque trois fois plus, et on ne sait pas ce qu'il va devenir, au fond. Bon, c'est l'argent qui fait les stars dans ce cas-là, avant même que la star ait confirmé qu'elle était un Neymar ou quelque chose comme ça.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire effectivement, de toute manière, on n'a même pas attendu qu'il y ait Mbappé et Neymar pour savoir que le championnat de France était un pantomime ou enfin sportivement, ça ne se joue plus de toute façon.
Mais oui. c'est pas depuis si longtemps.
2011, les Qataris.
Vous devez vous souvenir, nous n'avons pas le même âge, mais il n'y a pas si longtemps, Lens a été champion de France sous la direction de Daniel Leclerc, je crois.
Oui, du druide.
C'était un coach.
Montpellier, il y a encore...
Vous rendez compte ? Mais là, ça paraît la préhistoire.
Ça paraît la préhistoire, parce que là, on va être sur des... Écoutez, si vous avez un club qui tourne avec 35 millions d'euros, qui affronte un club qui tourne avec 700 millions d'euros, ça ne se joue plus. Mais il y a quelque chose de particulièrement pervers par rapport à ce que vous dites, qu'on constate. Là, je vais dans le sens de... C'est-à-dire que le déséquilibre, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous êtes à peu près assuré de gagner tous les week-ends 4-5-0. Et ces buts vont faire le tour du monde. C'est-à-dire que vous allez occuper au prorata du nombre de buts. On va aller voir au Japon parce que les buts de Neymar sont visibles au Japon, en Indonésie, en Amérique du Sud, au Canada. Et c'est-à-dire que vous allez, en fait, au prorata des cartons que vous allez mettre, 4, 5, 6 buts, vous allez diffuser votre marque avec d'autant plus de puissance et sur une durée d'autant plus longue. C'est-à-dire que la puissance de la marque se nourrit du déséquilibre sportif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se contredit et il y a quelque chose qui effectivement mine le sport et nie le sport. En fait, c'est l'éternel affrontement du spectacle contre le sport. Plus vous avez de spectacles, moins vous avez de sport. On en parlait souvent au propos du Tour de France avec le dopage. Ça reste un spectacle extraordinaire. Mais après, sportivement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous le savez? Est-ce que je le sais? On se méfie. C'est strictement pareil pour le football. C'est-à-dire qu'il y a, très franchement, aujourd'hui, moi, on va se regarder les matchs du Paris Saint-Germain en disant qu'est-ce qui va se passer. Mais on sait tous ce qui va se passer. Voilà. Donc effectivement, est-ce que le sport est nié? Très clairement, oui.
Oui, je dirais le jeu, c'est-à-dire le spectacle de l'argent, et c'est le jeu qui est nié. Je tiens à distinguer le jeu du sport, si vous voulez. Mais ce qui fait que l'on peut, qu'il soit possible d'aimer le sport malgré tout, c'est qu'il reste quelque chose du jeu, c'est-à-dire de la gratuité, dire on fait pour rien, ou de ce qui arrive chez le joueur et le spectateur, une sorte de sentiment d'immensité où on se libère de son moi. Bon, le jeu, c'est cela. Bon, mais cela se perd de plus en plus dans le sport.
Il demeure ce qu'on va en dire. C'est ça qui me fascine, moi. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que même là où on est en train, en parlant, d'exposer toutes les limites et tout, on continue à parler de football. Et dans 6 mois, on continuera à parler de football. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est même pour en pointer, ça reste un bien commun.
Ça reste un bien
voilà,
commun.
Voilà, on peut pas l'enlever, y compris pour le critiquer ou le...
C'est vrai.
Voilà.
Mais l'argent est là, et on parle aussi argent quand on parle de football. Et quand je dis « on », ça doit être vrai, notamment dans les classes des collèges et des lycées. Parce que vous dites, Robert Redeker, que l'esprit public se corrompt, que l'admiration se corrompt, mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans les écoles. Libération avait publié au lendemain des émeutes de 2005, Grégory Schneider, un long article sur une enseignante du lycée d'Étampes qui avait été agressée au couteau. Elle s'appelait Karen Montetoutin. Et elle disait que l'ambiance précédant cette agression, qui venait d'un élève isolé, était terrible. Et qu'il lui était notamment reproché que les élèves se moquaient d'elle parce qu'elle gagnait 1500 euros par mois. Et que c'était complètement ridicule. Donc ces sommes, si vous voulez, évidemment, elles s'incrustent dans les cerveaux, elles y font des dégâts. Et je dois dire que moi, nous on parle, on commente, mais j'ai été stupéfait de l'attitude des hommes politiques. Anne Hidalgo. La gauche, donc, illumine la Tour Eiffel. Le président de la République qui se félicite de l'arrivée d'un joueur aussi attractif. Son ministre du budget, Gérard Darmanin, si effectivement Neymar vient dans un club français, alors le ministre des Comptes publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Et je me dis, voilà, à gauche comme à droite, la politique s'est mise au service de l'économie. C'est vrai aussi quand on essaye d'émettre une critique sur les effets dévastateurs du tourisme grégaire. Le tourisme est rentable, etc. Donc, cela fait taire les reproches, alors qu'on aimerait que la politique se mette au service de la civilisation. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a aussi cet aspect des choses qu'il faut prendre en compte. Et je le dis... tout en reconnaissant que j'en parle et le plaisir que je peux prendre à voir d'aussi grands joueurs évoluer dans la même équipe. Je pense que l'association, même si Mbappé est un joueur en devenir, l'association Mbappé-Neymar-Cavani pourra faire des merveilles.
De toute façon, je pense que la puissance du football empêche à ce stade les politiques d'aller contre le vent. Le dernier quart de finale de Coupe du Monde, c'était le match entre les Français et les Allemands. On est à 22-23 millions de téléspectateurs. c'est à peu près le nombre de gens qui sont allés voter au deuxième tour des législatives la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a un impact où vous ne pouvez plus, qui crée l'unanimisme, qui crée... Mais ce que je veux dire ici, c'est que même moi qui en vis ou moi qui aime ça, je suis très mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'un discours unique, j'ai l'impression qu'on empêche les gens de penser ou d'avoir des sensations différentes et distinctes par rapport au jeu, comme si on essayait de désensibiliser sous ces montagnes d'argent ce qu'est vraiment le jeu. Après, ce qu'on peut en dire, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. J'ose espérer que le vestiaire résiste, j'ose espérer que ce qui se passe entre les joueurs résiste ou résiste dans une certaine mesure. Mais c'est vrai que cet unanimisme ne peut que nous mettre mal à l'aise. Après, on est quand même sur un microclimat. C'est-à-dire que Doha, effectivement, dans le football, ils n'ont pas 40 méthodes ou 40 moyens de s'imposer, ou en tout cas, ils en connaissent qu'une. Ils sortent un chèque. Et ils sortent le montant de la clause libératoire. Et si Barcelone n'est pas d'accord, ils déposent la valise avec le chèque sur le trottoir. Vous la prenez, vous la prenez pas. C'est-à-dire que c'est aussi tout le monde ne, c'est pas tout le football, ça. Tout le monde se comporte pas comme ça et tout le monde n'agit pas comme ça. Vous avez le Real, par exemple, c'est beaucoup plus équilibré. Ils auraient pu faire Mbappé, ils l'ont pas fait. Vous avez le Bayern qui fait monter des joueurs en graine. Vous avez des clubs qui choisissent eux d'investir sur le coach, c'est-à-dire quelque part sur la mise en musique. Ce que je veux dire, c'est que le PSG n'est pas non plus tout le football, même si vu d'ici, vu de France, évidemment, c'est aveuglant.
Robert Ricard. Voilà, oui. Donc, je voudrais développer un petit peu. En particulier sur les politiciens et le sport, j'ai trouvé en effet tout à fait déplorable l'attitude d'Anne Hidalgo, du président de la République, ainsi de suite. Et il y a des choses dans le dernier livre de Taguieff sur Macron là-dessus.
Bon, mais oui, il y a des choses aussi sur le rapport aux Jeux Olympiques, voilà, et j'espère qu'on en touchera un mot.
Plus profondément, je crois que les politiciens, consciemment ou inconsciemment, ont pris acte de la défaite de l'imaginaire politique et du triomphe de l'imaginaire sportif ou de l'imaginaire sportif phagocytant toutes des autres formes d'imaginaires sociaux. Voilà. Et les politiciens, là-dessus, sont tout à fait suivistes. Ils parlent l'imaginaire global dominant, d'où ces réactions, en effet, attristantes de nos dirigeants.
Ils sont suivistes, mais enfin, d'autres choses aussi, parce que De Gaulle disait « l'intendance suivra », eux, ils suivent l'intendance. C'est-à-dire ils ont un rapport à l'économie de soumission.
Voilà. Et un rapport totalement à la politique de négation.
Et un rapport à la politique de négation.
Mais après, on peut dire, il est dramatique que le football soit un peu le dernier recours, mais on peut aussi se dire qu'on a au moins ça. Moi, je me dis tous les jours que j'ai au moins ça. Il y a quelque chose qu'est-ce qui attache aujourd'hui un enfant de 7 ans à son grand-père de 80 ans. C'est un Patrick Lemoine, un journaliste de l'Équipe, m'avait expliqué une fois un truc. Il m'a dit, chez moi, j'ai des VHS. Pour regarder des films, j'ai des VHS. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as des DVD. Bon, déjà, c'est pas le même support. Et mes enfants vont regarder les trucs en stream. Non, mais on parle, même les supports changent. La dernière chose qui attache à peu près les gens, qui servent à discuter, qui servent de point de rencontre, c'est ça. Alors, effectivement, ça correspond peut-être à une défaite, mais au moins le foot vous donne au moins ce
ça traverse les générations.
Voilà, ce cadeau-là, voilà, tout
ça,
à fait. Et c'est le dernier.
Et ça traverse les classes sociales.
Et ça traverse, voilà.
Les classes sociales, c'est quand même très précieux, important de le dire aussi.
Voilà, parce qu'on parlait des fois, on dit oui, l'acculturation des joueurs, mais le foot, c'est tout le monde. Pourquoi on n'inviterait pas quelqu'un à table sous prétexte qu'il est... Moi honnêtement, Ribéry, dont on s'est beaucoup moqué en France, c'est la raison d'être de quelqu'un qui aime le foot, Ribéry. Moi, c'est la raison d'être. Et quand vous l'écoutez, vous pouvez... ça peut être un type riche, ça peut, à son niveau, pour ce qu'il a à vous dire. Donc, le foot, au moins, sert à ça.
Mais les moqueries Robert contre Ribéry, ou même plus anciennement contre Richard Virenc, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, puisque c'est le cyclisme qui m'intéresse, étaient des choses tout à fait, ces moqueries, tout à fait abject.
Relevant du mépris de classe.
Non, avec Ribéry, il y a aussi le prénom dont j'ai oublié exactement quel il était, donné à son fils, qui était quand même un prénom très, 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 pas seulement islamique, mais très islamiste.
Orienté,
très
Bilal ou Bilal ou quelque chose comme ça.
Non, plus que ça, plus que ça. Donc, il y a aussi cet aspect qui gênait un tout petit peu. C'est pas simplement Ribéry, l'homme qui venait du tiers, enfin du quart monde plutôt. C'était aussi
militant,
le converti, militant et peut-être un peu fanatisé. C'est aussi ça qui crée une certaine gêne.
Je vais répondre au dernier argument. Que peut-on rêver pour le football, et ce n'est pas tout à fait ce qui se passe malheureusement dans certaines classes de la société ou dans une partie de la société française ou de la jeunesse française qui est en dissidence ou même en séparatisme avec la France. Bon, alors que peut-on rêver pour le football? C'est qu'il incite chaque jeune Français, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau et la religion de ses parents, à aimer la France, son histoire, sa culture, son drapeau, donc à se sentir solidaire avec toute l'histoire de France et à se sentir...
Ça, on peut pas le demander au football.
À se sentir français. Oui. Non, mais on peut demander au football de travailler à cela. Or, j'ai l'impression que c'est le contraire qui se passe lorsque la Marseillaise est sifflée dans certains stades ou lorsque le drapeau algérien est promené, parce qu'il y a des victoires d'Algérie, etc. Donc, il me semble que le football ne joue pas le rôle de colle sociale ou de ciment social dont vous parlez et qu'il devrait jouer puisque c'est la dernière chose qui nous relie, dites-vous.
Pour moi, je pense que c'est un point de rendez-vous, mais c'est en aucun cas je parle empiriquement, c'est en aucun cas un outil d'édification ou de ciment ou de... Il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est la manière dont les champions du monde de 98 ont négocié le virage post-victoire. Ils ont toujours été extrêmement rétifs à rentrer dans le discours Black Blamber. Zidane, qui a toujours été d'une prudence de sioux là-dessus. La seule fois qu'on l'a entendu, c'était entre les deux tours en 2002. C'est la seule fois que j'ai entendu parler de politique. Parce que ils ont, en tout cas, les acteurs ont l'intuition que le football est fragile. C'est-à-dire qu'il pourrait s'écrouler sous l'édifice. On peut difficilement lui faire jouer un rôle. Alors, c'est une vision qu'ont eu ces gars-là à ce moment-là. Les Allemands, par exemple, sont partis en 2004 sur complètement autre chose. On va s'en servir pour intégrer les minorités, on va s'en servir pour soigner l'image de l'Allemagne, on va être sur un jeu de passe courte et plus sur un jeu de force et de duel. On va vraiment faire une espèce de vecteur d'image à l'export. Mais en France, il y a toujours eu cette réticence et que j'ai toujours personnellement eu rattaché aux excès post-98. C'est-à-dire que le football devait jouer le rôle des politiques, devait jouer le rôle des... Mais Didier Deschamps, vous n'allez pas lui faire jouer le rôle d'un élu ou d'un... Ça devient très compliqué.
Non. Et en même temps, Didier Deschamps est curieusement accusé de racisme aujourd'hui parce qu'il s'obstine à ne pas sélectionner Benzema. Et j'ai été stupéfait de voir un entraîneur aussi franchouillard, du moins dans son apparence, que Giroud, relayer cette accusation.
Non, oui, c'est-à-dire que non, mais c'est passionnant parce qu'on est exactement dans ce, c'est-à-dire que bon, qu'est-ce qui se passe? On est avant l'Euro, grosso modo, l'opinion publique a pas envie de voir Benzema. Quand vous avez un Euro à domicile, il vous faut l'opinion publique, donc ils ont décidé d'écarter Benzema pour des raisons.
Les politiciens eux-mêmes
se sont mêlés, valent à parler. Voilà, tout à fait. Donc Deschamps a été pragmatique. Il s'est dit, moi, j'ai pas envie d'être ennuyé, j'ai pas envie de si. Il avait voulu instrumentaliser le football. Il aurait dit, attendez, le football, c'est tout le monde. Y compris les réprouvés de l'opinion publique. Parce que Benzema n'a pas été condamné à ce stade, il n'est toujours pas condamné d'ailleurs. Donc il aurait pu dire, je vais me servir du football pour montrer l'exemple contre l'opinion publique et ramer contre l'opinion publique en démontrant la puissance et la force du football. Et là, ça revient exactement à ce que tu étais en train de dire, il a refusé de l'utiliser, fût-ce pour une juste cause. Parce que ces gens-là sont rétifs à utiliser le foot.
Oui, ce n'est pas d'utilisation dont je parle, c'est de quelque chose qui pourrait avoir le même rôle que, par exemple, les cours, et que non plus les cours d'histoire à l'école, c'est-à-dire le rôle de... parce que c'est affectif, oui. C'est l'amour du pays qui se joue là-dedans. Le football est d'une telle puissance qu'il est, je crois, capable de ça, mais aussi capable de l'inverse. Et on voit le rejet de la nation,
c'est très intéressant que vous
disiez. J'ai beaucoup de jeunes supporters ou amoureux.
Oui, mais c'est très intéressant que vous disiez ça au moment où nous parlons de Benzema, parce que l'une des raisons de son impopularité, c'est pas tant la sextape que la manière qui est la sienne de vraiment faire la gueule au moment où on entonne la Marseillaise. Et d'ailleurs, il a toujours dit qu'il refuserait toute sa vie de la chanter. Personne ne peut demander forcément aux joueurs de chanter la Marseillaise, mais il semblerait que Benzema fasse ostensiblement la gueule, et c'est l'une des raisons du désamour du public à son endroit. Parce que là, en effet, comme dit Robert Redeker, il peut se jouer quelque chose. Et il est vrai que l'équipe de France se distingue à cet égard des autres équipes nationales. Et ça, tout, le public y est sensible, et ça suscite un étonnement, une gêne. Et Benzema est le principal porte-parole, si j'ose dire, de ce silence boudeur. Mais,
d'autant plus qu'il y a eu des déclarations explicites à ce sujet.
Je ne dis pas que Didier Deschamps est raciste, mais il a peut-être donné quitus à une partie raciste de la France, de l'opinion publique, ce dont on parlait tout à l'heure en l'écartant. Sur Benzema, pour le connaître un peu, alors au moins il n'a pas fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'est pas fendu de tweets à teneur communautariste, ou il a pas jeté l'huile sur le feu, alors que il était quand même en position de le faire. Il était quand même très remonté contre le, mais au moins il s'est tenu. Mais ce que vous dites, je vais vous dire, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que quand vous les connaissez, le sentiment patriotique ou le lien au pays est en fait très variable selon les joueurs. Ça intéressait quelqu'un comme Grégory Coupet, par exemple. Bon, Benzema, en fait, il voit l'équipe de France comme l'acmé d'une carrière sportive. C'est-à-dire qu'il le voit, c'est strictement corrélé à son ambition, parce qu'il aime le jeu, il aime le foot. En fait, sa patrie, c'est le foot. Donc après, on peut à peu près et c'était pareil pour Tony Parker, par exemple. C'était des gens que vous pouviez réunir au centre d'un projet sportif en disant, voilà, on part sur 4 ans, il y a les Jeux Olympiques, c'est le sommet de ton sport, tu peux. Mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement, ça, vous avez raison, ils sont relativement, il y en a beaucoup qui sont très imperméable à un discours qui serait pas nationaliste mais patriotique, ou c'est quelque chose avec laquelle ils sont très distants et très méfiants. Après, ils se disent, moi, ma patrie, c'est le sport. L'équipe de France, je la défends parce que je l'ai mérité, puisque sportivement, c'est pas tant du cœur, c'est du talent qu'il faut pour arriver là-bas. Évidemment. Donc voilà, c'est à peu près le discours qui tienne. Ça, c'est tout à fait exact, oui.
Alors, je disais tout à l'heure que autrefois, les supporters me paraissaient plus civilisés puisqu'ils applaudissaient les actions des équipes adverses. Merci. Alors on me dira que on ne peut pas toujours dire c'était mieux avant, mais jeter l'opprobre sur c'était mieux avant, c'est peut-être aussi une manière d'étouffer les réactions de la décence commune. Mais surtout, il y a un paradoxe sur lequel je voudrais insister, car les supporters, notamment des clubs, se montrent parfois de plus en plus idolâtres, de plus en plus fanatiques, de plus en plus violents, quelquefois en se retournant contre leur club quand il n'accomplit pas les bonnes performances, alors que ce club lui-même se déracine, se délocalise. Les joueurs sont hors sol, les stades sont hors sol, vous le dites très bien, Robert Redeker, parce que maintenant, ils portent des noms de marques eux-mêmes.
Y compris le championnat qui s'appelle Conforama, c'est...
Oui. Voilà. Donc, il y a là une sorte de chassé-croisé tout à fait étrange. Hein, le football se délocalise et dans les supporters se fanatisent. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Ils se communautarisent et se fanatisent en même temps. Ils vivent le rapport à leur club comme une secte, et il y a dans les clubs de supporters beaucoup de manipulateurs qui auraient très bien leur place dans quelques sectes obscurantistes. Donc je crois que c'est une communautarisation assez triste des clubs de supporters, et cela se regarde comme une compensation affective à cette délocalisation. Et alors, j'allais dire déterritorialisation, mais je n'aime pas le mot territoire parce qu'il est déjà l'abstraction même. C'est le mot terroir. Les clubs étaient des affaires de terroir, avec souvent des gens du coin ou des Magnusson à Marseille que l'on invitait, Scoblar qui restait un grand nombre d'années. Or, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe, et le joueur Mbappé dont nous parlions tout à l'heure défend Monaco, et l'adversaire principal de Monaco, semble-t-il, avec la même ardeur, et à la place du supporter d'un des deux clubs, je serais quand même dans un grand désarroi devant cette infidélité ou ces fidélités vacillantes successives.
Hier soir, on avait un Lille-Bordeaux avec l'avant-centre de Bordeaux, c'était Nicolas Depréville. 5 jours avant, il était à Lille.
Oui.
Donc non, alors cette déterritorialisation, elle est effectivement, qui descend en Ligue 2 en fait ? Le public et l'actionnaire. Puisque l'entraîneur va ailleurs, les joueurs vont ailleurs, donc effectivement, ce sont eux qui écopent. Donc après, mais là encore, on est un peu sur un reflet, je trouve, du monde comme il est. Par exemple, pour parler du LOSC, dans la chaîne de propriété du Lille Olympique Sporting Club, vous avez 4 entreprises situées dans 4 pays différents, dont 3 paradis fiscaux. Hong Kong, le Luxembourg et les îles Vierges. Donc effectivement, alors là, le foot est pas défendable, mais le foot dit le reste. C'est-à-dire que il dit effectivement l'opacité des circuits financiers, il dit la défiscalisation, on l'a bien vu avec les Football Leagues, où les droits d'image appartiennent à des sociétés qui sont systématiquement, d'ailleurs c'est toujours aux îles Vierges britanniques ou au Panama, enfin c'est voilà. Donc effectivement, le foot dit ça. Mais même là, charger le foot, ça revient casser le thermomètre, au fond.
Pour aller dans l'autre sens, il faut rappeler quand même que le Qatar est propriétaire
du
Paris Saint-Germain et que le Qatar a obtenu d'organiser une prochaine Coupe du Monde de football dans des conditions
extrêmement opaques.
Alors, qui peuvent même mettre en danger les plus hautes autorités de l'État.
Voilà, et donc c'est pour ça d'ailleurs que les politiques devraient quand même se saisir de cette question à bras le corps, au lieu d'être suivisme, comme vous le dites l'un et l'autre. Mais justement, sur ce suivisme, je voudrais, pour finir, élargir le débat. Parce que nous parlons football, mais le sport, c'est pas seulement football, c'est notamment les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de 2024, que Paris va organiser, et tout le monde est déjà prêt à célébrer cette victoire. Le président de la République, qui, si je puis dire, et Taguieff le montre très bien, a mouillé sa chemise pendant la campagne et après son élection, mais tout le monde, la presse aussi, est unanime. Or, je suis très surpris, parce que la France a gagné, mais les autres villes ont jeté l'éponge. Budapest a jeté l'éponge, Boston a jeté l'éponge, Toronto également, Rome, parce que les populations n'en veulent pas. C'est trop d'argent, trop de sécurité, trop de monde, trop de corruption, trop de dopage, et on se flatte déjà de quelque chose dont personne ne veut.
Quand les derniers Jeux d'hiver ont été attribués, au dernier tour de scrutin, il y avait 2 pays, c'était la Chine et le Kazakhstan. Vous dire quand même quel genre de pays ça attire. Parce que là, vous n'avez pas une association écolo qui va vous dire, attendez, il y a tel moustique dans le, il y a aucun problème, hein. Les autorités du Kazakhstan font quand même pas la même mesure. Non, mais alors là, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, et je trouve, et qui en plus recoupe un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression que la France est vraiment le dernier pays au monde à considérer l'organisation d'un événement sportif comme relevant du prestige national c'est-à-dire que le sport n'a plus ce sens-là. Alors, très franchement, il n'a plus ce sens-là. Les Norvégiens qui devaient concourir pour organiser les derniers Jeux d'hiver, les Norvégiens, c'est quand même le plus grand nombre de médailles depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit non, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on aime mieux investir dans des écoles. Et j'ai l'impression que la France, qui a organisé l'Euro en 2016, est effectivement le dernier pays à avoir un peu comme une espèce de politique de la canonnière, enfin, voyez, comme une espèce d'expression d'une puissance nationale. Ça me semble pour le moins obsolète vu comme ça.
Mais j'espère que Libération le dira, parce que toute une partie de la presse va dans le sens, justement, de l'enthousiasme, et on a l'impression que l'opinion est conditionnée à applaudir une décision qui fait peur à toutes les opinions.
Juste un détail, ils se sont bien gardés de nous faire un sondage sur ce qu'ont pensé les Parisiens ou la Grande Couronne. Parce qu'alors là, on aurait, si vous voulez, ce qui se disait en coulisses, si Anne Hidalgo avait voulu plomber le projet, elle aurait fait ce sondage. Et on n'en parlait plus. Voilà. Donc c'était une arme qu'elle gardait sous le coude. Elle l'a pas dégainée, et on nous entonne l'air du prestige national.
C'est un unanimisme de surface qui concerne une partie de la société, c'est-à-dire l'élite dirigeante et médiatique.
Et industrielle aussi.
Et industrielle qui voit ses intérêts, des intérêts privés qui coûteront sans doute cher en argent public.
Voilà.
Mais ce n'est pas du tout, j'en suis persuadé, le sentiment
profond déjà.
Profond.
Et votre sentiment à vous, c'est profonde. Quoi, justement, quand vous voyez tout ça, Robert Heidegger? Comment vous réagissez, vous? Vous dites c'est pas le sentiment profond, mais dites un peu le vôtre. Est-ce que ce sera une catastrophe si les Français obtiennent les Jeux Olympiques pour Paris, la Seine-Saint-Denis, puisque c'est maintenant comme ça. Paris 93.
Notre pays.
C'est comme ça qu'on dit.
Alain Finkielkraut devient de plus en plus laid. Voilà. Il y a un envahissement de notre pays par la laideur, avec la construction partout de bâtiments nouveaux, de routes, d'autoroutes, de déviations, ainsi de suite. Alors les Jeux Olympiques vont contribuer encore plus à l'enlaidissement de notre pays. Voilà. Refuser, c'est pour un argument esthétique que je m'oppose à l'organisation des Jeux Olympiques.
Mais si on vous dit, au contraire, ça permettra de refaire les infrastructures, les transports, peut-être construire de beaux bâtiments, etc.
Ce n'est pas vrai, l'expérience. Alors, il y a eu sur France Info un reportage de propagande sur Londres, disant que Londres s'était embellie. Mais tout ça est complètement faux, c'est de la pure propagande olympiste. Voilà. Et mon opposition est esthétique, mais elle ne touche pas que le sport. Tout près de l'endroit où j'habite, figurez-vous, en plein Lauragais, dans un endroit qui était magnifique, où il n'y avait rien, le maire a fait construire un village des marques. Voilà, un village des marques. Alors, du coup, vous avez l'autoroute, une déviation, puis d'autres constructions qui s'agrègent autour. Bon, alors j'ai bien peur que les Jeux Olympiques à Paris, en France, aient le même effet aussi dévastateur.
Il y a quelque chose de très gênant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils nous font passer pour l'ennemi du sport si on n'est pas derrière ce projet-là. Or, le sport, on le vit tous de manière intime, on le vit tous de manière individuelle. Et ce que je veux dire, c'est que cet unanimisme, en fait, contredit la nature même de ce qu'est le sport, qui a une résonance. Vous en parliez au début d'émission par rapport à l'enfance, par rapport à vous. Vous n'avez pas le même rapport qu'un autre. Et je trouve que c'est vraiment contredire la matière même de ce qu'est le sport.
Merci beaucoup, Grégoire Schneider, Robert Heidegger. J'ai été passionné par cette conversation. Robert Heidegger, vous publiez sur un tout autre sujet, aux éditions des Clés de Brouwer, un livre très important, L'éclipse de la mort. Et je voudrais dire aussi que vous êtes venu ici, Robert Heidegger, escorté par un service de sécurité, parce que vous êtes l'objet, depuis 11 ans, d'une fatwa vous condamnant à mort, et je crois qu'il ne faut pas se résigner à ce scandale. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Saint-Exupéry a-t-il toujours quelque chose à nous apprendre ?» Mes invités seront Sylvain Faure et Vincent Trémollet de Villers. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Ochard et Thomas Beau. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.